Décryptage. Marion Kazanov.
Il avait promis une annonce très importante à l'occasion de sa tournée dans les pays du Golfe. Donald Trump a surpris, en effet, en levant les sanctions américaines contre la Syrie avant de rencontrer le président syrien, Ahmad al-Shara. C'était tout à l'heure à Riyad. Une tournée consacrée aussi et surtout à la signature de contrats économiques. Les monarchies du Golfe, c'est la zone de confort du président américain. Pas de contradiction, des dirigeants qui, comme lui, aime faire du business et il a besoin d'alliés après avoir froissé des pays amis avec sa guerre commerciale. Comment le Golfe peut-il profiter des bouleversements diplomatiques provoqués par Trump ? Les monarchies de la péninsule peuvent-elles devenir le centre de l'économie et de la diplomatie mondiale ? On répond à ces questions ce soir dans Décryptage. Et avec vous, Adlène Mohammadi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur et enseignant en géographie politique à Paris 3 et à l'IRIS, expert associé aux séries Sciences Po. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci.
Pour commencer, écoutons le président américain Donald Trump. C'était tout à l'heure visiblement ravi de son amitié avec l'émir du Qatar, avec lequel il a signé de nombreux contrats.
Je veux tout d'abord vous remercier pour votre amitié. Cette amitié de longue date, bien avant tout cela, nous nous apprécions simplement. Nous avons toujours eu une relation particulière et nous étions juste avant d'ailleurs en Arabie Saoudite où là aussi, il y a un homme incroyable qui est aussi un de vos amis. Vous vous entendez si bien. C'est bien de voir toutes ces bonnes relations qui se nouent au Moyen-Orient, car on parle du Moyen-Orient dans le monde entier. Il y a beaucoup de choses à faire ici, nous vous aidons d'ailleurs beaucoup, et vous faites d'ailleurs un travail remarquable.
Voilà Trump qui remarque notamment qu'il se passe des choses au Moyen-Orient, qu'on en parle dans le monde entier, on va y revenir. Il parle aussi d'une amitié de longue date, Adlène Mohammadi, c'est-à-dire c'est une bonne entente entre Trump et les dirigeants du Golfe qui n'est pas nouvelle.
Oui, effectivement. Il rappelle un petit peu les relations du premier mandat, mais il y a quand même quelques différences entre le premier mandat et celui-ci. C'est-à-dire que le premier mandat de Donald Trump en 2017 avait commencé avec quelques couacs, parce que c'était quand même une période où il y avait eu notamment le blocus du Qatar, le blocus imposé par ses voisins, par l'Arabie Saoudite et les Émirats. Et le premier réflexe à l'époque du président américain, c'était quand même de s'aligner sur les positions saoudiennes et émiriennes contre le Qatar. Très vite après, il s'est rendu compte quand même que le Qatar, c'était stratégique, c'était important pour les États-Unis, du fait de la présence de la principale base américaine. Puis, bon, les relations se sont ensuite fluidifiées. Il a d'ailleurs participé justement à cette normalisation à la fin de son mandat entre le Qatar et ses voisins. Donc, bien sûr, il y a des relations importantes, des relations d'ailleurs aussi parfois familiales, puisque son gendre, Jared Kushner, a bénéficié du fonds souverain saoudien et d'investissements qataris aussi. Donc, bien sûr, il a bien raison de rappeler que les relations avec les princes du Golfe sont des relations particulièrement importantes pour lui.
Alors, il y a deux volets importants dans cette visite, diplomatique et économique, qui sont d'ailleurs assez liés. Ce devait être une visite plutôt axée business, avec des contrats signés, mais la diplomatie s'invite d'autant plus avec les rebondissements de ces derniers jours. Prenons le dernier en date, la rencontre des présidents américains et syriens à Riyad, la levée des sanctions américaines. Précisons que Trump a demandé en échange à Ahmad al-Shara une normalisation avec Israël. Cette rencontre, Adlène Mohammadi, est-ce que c'est une victoire diplomatique pour l'Arabie Saoudite ?
Oui, c'est une victoire diplomatique pour l'Arabie Saoudite. C'est aussi une victoire diplomatique pour la Turquie, hein, puisque Ahmad al-Shara, le président syrien, était surtout le protégé de la Turquie. Et c'est surtout aussi une victoire diplomatique pour le président syrien lui-même, puisque, bon, en quelques mois, il est quand même passé du statut de chef de guerre dans une zone enclavée au nord-ouest du pays, à président dialoguant directement avec le président américain. Donc c'est aussi une victoire diplomatique pour lui.
Mais est-ce qu'on peut dire que les pays du Golfe se sont impliqués là-dedans, puisque la rencontre a lieu à Riyad, il fait cette annonce juste avant de faire cette tournée dans la région ?
Oui, absolument. C'est-à-dire que en réalité, dès le début, je pense qu'il y avait une inquiétude sur le rôle que pouvait jouer l'Arabie Saoudite. Puisqu'il ne faut pas oublier que l'Arabie Saoudite avait quand même, contrairement au Qatar par exemple, avait quand même pris le risque d'une normalisation avec le précédent pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir de Bachar al-Assad. Il ne faut pas oublier que l'Arabie Saoudite a été l'un des vecteurs du retour de Bachar al-Assad sur la scène internationale et dans la Ligue arabe. Trump. Donc au début, on pouvait avoir quelques doutes sur, finalement, les relations de confiance entre le nouveau pouvoir syrien et l'Arabie saoudite. Et très vite, en réalité, le nouveau président syrien, Ahmad al-Sharaa, s'est rendu compte que l'Arabie saoudite était un incontournable dans la région. Donc lui-même, il a un peu misé sur ce partenariat avec l'Arabie saoudite. Et l'Arabie saoudite a décidé, depuis quelques mois, de jouer un rôle de puissance médiatrice dans la région, après avoir été finalement un protagoniste des conflits de cette région, l'Arabie Saoudite essaie aujourd'hui d'émerger vraiment comme une espèce de médiateur, comme une espèce de pivot diplomatique régional. Et en cela, c'est une victoire diplomatique, oui.
Alors, l'un des enjeux de cette visite de Trump, c'est donc de négocier une normalisation des relations avec Israël, puisqu'il l'a demandé à la Syrie. Peut-être aussi de revitaliser même les accords d'Abraham. Je rappelle que ce sont ces accords de paix signés en 2020. Trump à la manœuvre entre Israël et plusieurs pays, les Émirats arabes unis, Bahreïn, plus tard le Soudan, le Maroc. Sauf qu'aujourd'hui, avec la guerre à Gaza, la radicalisation du gouvernement israélien, enfin ce gouvernement d'extrême, le plus à droite de l'histoire, c'est dur pour Trump d'argumenter en ce sens aujourd'hui pour une normalisation.
Je pense qu'il le fait de moins en moins, et quand il le fait avec la Syrie, il le fait avec très peu de conviction. C'est-à-dire que c'est quand même très peu probable que le président syrien normalise ses relations avec Israël. Alors, sur le papier, en réalité, les Américains voudraient que les Syriens, les Libanais, les Saoudiens normalisent leurs relations avec Israël. Ça serait une énorme victoire diplomatique, analogue finalement aux accords d'Abraham. Aujourd'hui, dans les faits, c'est pas probable. C'est-à-dire que les Saoudiens eux-mêmes, en réalité, ne sont très sceptiques. Et bien sûr, en Syrie, ça serait inacceptable en réalité, parce qu'il y a quand même malgré tout derrière une population, une opinion publique. Il ne faut pas non plus oublier qu'Ahmad al-Sharaa, quand il est arrivé au pouvoir, il n'a pas été accueilli avec des fleurs par les Israéliens, puisqu'ils ont bombardé quand même le pays régulièrement après la chute de Bachar al-Assad. Il ne faut pas oublier aussi que Israël occupe un territoire syrien, le Golan. Les conditions d'une normalisation ne sont absolument pas là. En fait, là où c'est intéressant, cette levée des sanctions américaines est intéressante, c'est au-delà de l'échelle régionale géopolitique et qui concerne les pays du Golfe, c'est aussi à l'échelle syrienne, puisque ça peut être aussi un facteur de convergence entre ce qu'on appelle les forces démocratiques syriennes qui contrôlent le nord-est du pays et le pouvoir syrien, le pouvoir d'Ahmad al-Sharaa. Et effectivement, puisque ces forces démocratiques syriennes, soutenues par les États-Unis, ont aussi salué cette levée des sanctions. Et là, effectivement, ça pourrait avoir des conséquences à l'échelle politique syrienne, c'est-à-dire finalement ce rapprochement entre le pouvoir officiel et ces forces démocratiques syriennes que Bachar al-Assad n'avait pas réussi avec l'aide de la Russie. Peut-être que Ahmad al-Sharaa pourrait le réussir avec l'aide des Américains. Donc, à l'échelle syrienne, il y a un intérêt, au-delà même de l'intérêt humanitaire, socio-économique pour la population, il y a cet intérêt politique. À l'échelle géopolitique, bien sûr, on a parlé de la victoire diplomatique des Saoudiens, des Turcs, etc. Mais de là à penser qu'une normalisation avec Israël serait envisageable dans l'immédiat, je pense que ce n'est pas pensable.
Mais est-ce que Trump, pour en revenir spécifiquement au cas des pays du Golfe, est-ce que Trump pourrait mettre autre chose dans la balance, par exemple, parler d'un État palestinien? Est-ce que de leur côté, les pays du Golfe pourraient dire en échange, il pourrait y avoir une reconnaissance d'un État palestinien?
Ça a été évoqué, bien sûr, dans certains médias, on a lu ça, que Trump pourrait éventuellement lui-même évoquer ça, l'hypothèse d'une reconnaissance même d'un État palestinien. Mais dernièrement, côté saoudien, on a quand même expliqué que c'était pas vraiment à l'ordre du jour. Parce que, en réalité, on a affaire quand même à des pouvoirs certes autoritaires, mais ce sont des pouvoirs autoritaires qui ne peuvent pas négliger complètement leurs opinions publiques. D'ailleurs, si les opinions publiques n'étaient pas importantes, on n'investirait pas des milliards dans leur manipulation. Donc, normaliser aujourd'hui avec Israël, ça n'est pas socialement acceptable à l'échelle, par exemple, de l'Arabie saoudite. Ça n'est pas acceptable. Surtout quand on parle finalement, surtout dans un contexte où les massacres à Gaza se poursuivent, et surtout quand, au moment même où Donald Trump est en train de discuter avec ses amis du Golfe, les Israéliens multiplient les bombardements précisément à ce moment-là.
Et alors, mais justement, Donald Trump snob un peu Israël, il ne va pas s'arrêter en Israël dans cette tournée. Est-ce que les pays du Golfe croient que eux pourraient, avec des manœuvres diplomatiques, en discutant avec Donald Trump, le faire changer d'avis et lui parler de cet État palestinien sans qu'en échange il y ait forcément une normalisation avec Israël? Enfin, est-ce qu'ils croient, avec un président aussi imprévisible que Trump, pouvoir le faire changer d'avis?
Alors, je pense qu'effectivement, ça serait intéressant pour eux, hein, je pense, pour les pays du Golfe, d'évoquer ce point, même si je ne dirais pas que la reconnaissance d'un État palestinien soit une obsession parmi les dirigeants du Golfe, mais effectivement, ils pourraient le faire. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même deux tendances contradictoires, et on a tendance parfois à penser que l'une a vocation à évincer l'autre. La première tendance, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, dans l'immédiat, ces derniers jours, ces dernières semaines, les Américains agissent indépendamment des intérêts israéliens. C'est-à-dire qu'ils s'occupent de leurs otages, précisément, à Gaza, directement. Ils s'occupent, par exemple, de leur trêve avec les Houthis au Yémen, sans s'intéresser, finalement, à une solution incluant Israël. Donc, ils envoient ce genre de signaux. Mais de l'autre côté, l'impunité dont jouit Israël à l'échelle régionale est toujours là. C'est pas comme si le président américain avait changé de ton à l'égard des Israéliens. Alors certes, il s'impatiente, mais il s'impatiente parce qu'il considère que les Israéliens n'ont pas, entre guillemets, réussi leur mission initiale, c'est-à-dire en finir avec le Hamas. Mais c'était déjà une mission impossible. Donc, je pense qu'il ne faudrait pas... Alors, certes, on a affaire à, au principe de l'America First qui supplante le principe du soutien inconditionnel à Israël aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire les intérêts américains aujourd'hui priment l'alliance avec Israël dans l'immédiat. Mais il ne faudrait pas que ça nous fasse oublier l'impunité quand même, le blanc-seing quand même offert par les Américains aux Israéliens, puisque les Israéliens continuent de bombarder Gaza impunément. Et même, je dirais, que parfois les Américains vont encore plus loin, puisque là, ils parlent notamment de militariser l'aide humanitaire et de remplacer l'aide humanitaire internationale par une aide privée avec des acteurs privés, etc. Donc on n'est pas vraiment dans un conflit avec Israël, on est plutôt dans un momentum America First.
Une impatience, comme vous disiez. Alors,
une impatience.
Vous avez évoqué ces frappes contre les rebelles houthis du Yémen, qui sont donc eux alliés de l'Iran et donc ennemis de l'Arabie Saoudite. Une trêve a été trouvée juste avant la visite de Trump. Que veulent les monarchies du Golfe sur ce sujet? Parce que d'un côté, est-ce qu'ils ne veulent pas de combat pour maintenir une région stable, mais est-ce que ça ne les arrange pas aussi que les États-Unis s'occupent des rebelles yéménites?
Alors, je pense qu'il y a de ça, oui. Je pense que pour les Saoudiens, pour les Émiratis, pour leurs alliés yéménites, laisser les Américains faire, c'est une manière aussi, entre guillemets, de ne pas salir les mains, parce que de toutes les manières, on a bien vu que les Saoudiens et les Émiratis ont cessé de faire la guerre aux Houthis. Les Émiratis déjà bien avant les Saoudiens, mais les Saoudiens aussi. Quand Biden a mis en place sa coalition de la mer Rouge, on a bien vu que les Saoudiens et les Émiratis n'étaient pas là. En fait, les Saoudiens ont compris que la guerre contre les Houthis au Yémen n'était pas une guerre gagnable, donc on va laisser les Américains. Mais les Américains eux-mêmes ont fini par annoncer une trêve il y a quelques jours. C'est-à-dire que même pour les États-Unis, renverser le pouvoir houthi à Sanaa aujourd'hui, ça n'est pas une priorité immédiate. Mais vous avez raison, je pense que l'Arabie Saoudite et les Émirats sont dans une posture attentiste en se disant « Bon, nous, on ne va pas salir les mains, mais si ça devait tomber, eh ben, ça serait une bonne chose à prendre. »
Est-ce que c'est une priorité pour eux, une région stable, pour se montrer comme une région stable, un des faiseurs de paix aussi peut-être, un centre diplomatique mondial, donc ils ont besoin que dans leur région, il n'y ait pas de conflit et que tout soit calme, entre guillemets?
Sur le papier, effectivement, c'est ce qu'ils disent. Hein, dans la doctrine émiratie, par exemple, on insiste beaucoup sur la notion de connectivité. Ils veulent vraiment se focaliser sur leurs intérêts économiques.
Et notamment l'Arabie Saoudite, qui a son projet Vision 2030, son projet pharaonique d'investissement, qui a besoin de stabilité.
Tout à fait. On est dans les deux cas, dans une espèce d'économisation des relations internationales, où les relations économiques doivent être au cœur des relations diplomatiques, et donc la paix doit primer. Mais en réalité, c'est une paix quand même qui passe par beaucoup de violence, parce que bon, l'Arabie Saoudite a quand même mené une guerre très violente au Yémen pendant quelques années, avec un certain nombre de crimes. Donc aujourd'hui, évidemment, le but, c'est de faire oublier tout ça et de passer pour une puissance médiatrice, qui est d'ailleurs l'un des points finalement qui explique l'impasse des négociations avec les Houthis au Yémen, puisque les Houthis au Yémen veulent considérer les Saoudiens comme des belligérants et non pas comme des médiateurs. Donc il y a effectivement cette volonté, vous avez raison, de lisser un petit peu la région. D'ailleurs, de ce point de vue, la question palestinienne est un problème pour eux. Il y a cette volonté de lisser la région, de lisser la région et d'en finir avec la guerre au Yémen. Mais depuis effectivement quelques années, les Saoudiens ont compris qu'ils ne veulent pas la guerre au Yémen. Ils ne veulent pas la guerre au Yémen aussi parce que leur territoire est en danger. Parce qu'ils ont bien vu que les rebelles Houthis ont un pouvoir de nuisance, y compris sur le sol saoudien. Et ça, effectivement, c'est un point important.
Et est-ce que ces trois, on a parlé donc de cette stabilité dans la région, cette image qu'ils veulent montrer, est-ce que ces trois pays, donc Émirats, Qatar et Arabie Saoudite, s'entendent, ont à peu près les mêmes, ils affichent un front uni, chacun organise des pourparlers, enfin ils ont l'air unis sur de nombreuses questions, notamment la question palestinienne, est-ce qu'eux-mêmes ont des divergences diplomatiques ?
Oui, il y a des divergences. Alors, les divergences ne sont pas exactement les divergences qu'on avait lors du premier mandat de Donald Trump. Et ça, et là encore, la distinction est intéressante. Parce que Donald Trump, dans son premier mandat, il était face à un Moyen-Orient qui était clairement fragmenté avec des coalitions géopolitiques clairement identifiables. Il y avait un axe dit de la résistance mené par Téhéran. Il y avait un axe plutôt islamo-réformateur mené par le Qatar et la Turquie. Il y avait un axe contre-révolutionnaire mené par l'Arabie Saoudite et les Émirats. Donc, quand il était président lors de son premier mandat, il voyait d'un côté les Qataris malmenés par leurs voisins, à cause de leur soutien aux frères musulmans et de leurs relations avec l'Iran. Il voyait un vrai bras de fer entre les Iraniens et les Saoudiens, etc. Puis là, il se retrouve quand même avec un Moyen-Orient différent, où, vous avez raison, on a plutôt une convergence, où, alors bien sûr, certaines divergences sont encore là. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis n'ont pas eu la même stratégie au Yémen. Ils ne soutiennent pas exactement les mêmes acteurs. Par exemple, les Émiratis soutiennent encore les séparatistes sudistes. Le Qatar n'est pas tout à fait aligné avec ses voisins sur la question palestinienne, puisque les Émirats ont normalisé avec Israël.
Oui.
Ce que le Qatar, bien sûr, refuse de faire. Donc, il y a encore ces distinctions, mais on est dans une configuration qui est quand même différente de celle que Trump a laissée la dernière fois. Et la grande différence, quand même, qu'il ne faut pas oublier, c'est l'Iran. C'est la relation avec l'Iran.
Alors, oui, justement, autre question que je voulais absolument aborder, justement, les relations avec l'Iran. Plusieurs sessions de pourparlers ont eu lieu entre Téhéran et Washington sur le nucléaire iranien. Trump semble d'accord pour un deal et pour réduire les tensions avec Téhéran. Comment se positionnent les pays là-dessus ? Comment est-ce qu'ils voient on ne peut pas parler de rapprochement, mais ce dialogue entre les Américains et les Iraniens ?
Et là encore, vraiment, on a une différence majeure, puisque à l'époque de son premier mandat, il y avait une vraie animosité, une vraie hostilité, un vrai bras de fer entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et il y avait en plus, par ailleurs, un axe de la résistance, entre guillemets, c'est-à-dire l'axe dominé par Téhéran, qui incluait le pouvoir syrien de Bachar al-Assad, les Houthis dans une moindre mesure, le Hezbollah libanais, qui était dans une position plutôt de force, qui était dans une phase ascendante. Aujourd'hui, on a deux différences. On a d'un côté une convergence, mine de rien, entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, puisque l'accord avec la médiation chinoise entre Téhéran et Riyad n'a pas été remis en cause jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même une différence quand même importante. Et l'autre différence, c'est que l'axe de la résistance, entre guillemets, n'est pas aussi fort qu'en 2017, 2018, 2019, où le Hezbollah était très fort au Liban, où les Houthis étaient déjà à Sanaa, et où le pouvoir syrien reprenait son territoire. Le pouvoir syrien de Bachar al-Assad reprenait son territoire. Aujourd'hui, il n'y a plus de pouvoir syrien de Bachar al-Assad. Le Hezbollah est affaibli au Liban. Les Iraniens sont plutôt affaiblis. Les Houthis apparaissent comme finalement le noyau dur de cet axe. Donc, peut-être que Donald Trump se dit, c'est le moment de leur faire peut-être avaler avec des pressions maximales un deal, vraiment, beaucoup plus facilement que la dernière fois.
Il nous reste vraiment 20 secondes, Alain Mohammadi. Est-ce que pour vous, ces pays du Golfe sont devenus un peu le centre des manœuvres diplomatiques mondiales ? Il y a eu des pourparlers organisés pour l'Ukraine et la Russie, pour la guerre à Gaza ?
Oui, alors indéniablement, je pense que les pays du Golfe aujourd'hui jouent un rôle. Enfin, déjà, on le voyait à l'échelle du monde arabe depuis quelques décennies, hein, que le centre de gravité s'était déplacé là-bas. Mais bon, l'impasse qu'on ne peut pas ne pas voir, c'est la question palestinienne. C'est-à-dire que si la question palestinienne, s'il n'y a rien à dire sur le génocide à Gaza, bah, les pays du Golfe n'ont pas grand-chose à dire.
Merci beaucoup, Aden Mohammadi, chercheur et enseignant en géographie politique à Paris 3 et à l'IRIS, expert associé aux séries scientifiques.